Si tu veux, là, on peut passer à un exemple qui est un peu moins marketé, un peu moins normé. Là, on va parler d'un polycule avec des personnes queer, avec des profils complètement variés. Donc, il va y avoir dans ce polycule des personnes cis, des personnes trans, des personnes lesbiennes ou gays et des personnes bi, des personnes aro, ace, et des personnes valides et des personnes avec des handicaps. Donc là, on va avoir un panachage de beaucoup de différences et d'enjeux de pouvoir possibles.
Dans les différentes dynamiques de pouvoir interpersonnel dans cette situation, on va avoir la question de la cisnormativité versus les transidentités. On va avoir des personnes qui vont être toutes concernées par le stress minoritaire. Et après, on va avoir la question des orientations sexuelles, celles qui sont assumées ou pas, de la potentielle homophobie et de la potentielle biphobie. Ça va venir parler aussi de la pression sociale à se conformer, notamment pour les personnes aro-AC. Ces personnes-là vont être discriminées parce qu'elles ne vont pas rentrer dans le moule d'entretenir des relations romantiques et ou des relations sexuelles. On va venir parler aussi de validisme avec différents types de handicaps possibles. Et du coup, le biais de perception de soi par rapport au validisme, c'est souvent la peur de pas se sentir suffisant, suffisante, adaptée dans une société qui rejette. Et aussi l'accès au marché de la séduction. Mais moi, j'ai envie de questionner comment les codes queer viennent à des moments limiter pour certaines personnes ou faciliter pour d'autres l'accès au marché de la séduction. Qui est exclu du marché de la séduction, dans quels environnements, notamment avec la question de la transmisogynie, par exemple, pour les personnes transféminines en début de transition, qui en prennent plein la tronche, aussi dans les milieux queer. Donc je sais que c'est un sujet délicat, je vous envoie des chatons, mais voilà.
Et c'est important de se questionner dans nos milieux queer.
Et c'est quoi les codes queer ?
Ça va dépendre de quelle partie de la communauté tu parles. On va pas avoir les mêmes codes dans la communauté gay que dans la communauté lesbienne ou dans la communauté bi qui est un peu perdue au milieu. Et il va y avoir aussi des codes différents dans la communauté trans, dans la communauté non-binaire. En fait, chaque sous-groupe va avoir ses propres codes. Et même au sein de chaque groupe, il va y avoir des codes encore différents en fonction de comment on exprime notre genre et nos attirances.
Il y a un peu la question de avoir un passing queer, c'est-à-dire être visible comme personne non cis hétéro. Je parle des cool kids, donc ceux qui ont le bon look, ceux qu'on voit, ils sont pas dans les normes et qui parfois vont avoir une certaine prestance. Je veux pas parler de privilège parce que là, ce serait trop gros, faut pas non plus. Mais une certaine légitimité en tout cas à être dans certains espaces. Ça se voit, enfin les violences intracommunautaires, c'est un gros sujet, mais ça se voit qu'ils vont venir casser des personnes qui ont moins les codes, qui performent moins bien la queerness, et on va avoir des dynamiques d'exclusion, de mise à la marge aussi dans les espaces qui se veulent queer.
Moi, ce que vous dites par rapport à l'exclusion de personnes qui performeraient pas assez la queerness, en fait, ça me fait penser, en fait, à l'exclusion des personnes racisées en général, qui sont perçues comme, les Arabes et les Noirs, qui sont perçus comme plus réactionnaires et moins tendanciellement queer. Mmh. Et notamment, moi, j'étais dans un collectif antiraciste l'an dernier, et on avait été contacté par des personnes d'un groupe antiraciste à Rennes. Qui avait eu des problèmes en gros avec des drag queens qui disaient des choses horribles sur les mecs de cité notamment. En fait, la construction de la manière dont on se perçoit ou on s'exprime comme queer, elle a été façonnée par les luttes occidentales. Mmh. Et maintenant, genre, c'est quasiment impossible d'être queer non occidental ou alors on se fait traiter de réactionnaire.
En fait, historiquement, les théories queer sont nées dans un contexte raciste et elles se sont nourries d'un contexte raciste. Notamment aux États-Unis. Et en fait, faut pas, je pense, nier ou invisibiliser cette construction historique. Et aujourd'hui, je pense que c'est à nouveau les marges des marges, c'est-à-dire par exemple les personnes queer racisées qui vont devoir porter le poids de modifier à nouveau les cultures des marges. Le racisme dans le milieu queer, c'est un sujet Et à nouveau, c'est l'intersection des luttes. Et donc, on a des personnes qui parlent de positions intersectionnelles qu'il faut aller écouter, évidemment.
Même sur la notion de la performance, il y a aussi la question de la visibilité, du coming out, qui n'est absolument pas un impératif, selon moi. Et je pense que, par exemple, si on prend un exemple simple de personnes qui sont dans des familles croyantes, ou, etc., et qui n'ont pas envie de visibiliser leur homosexualité, vont être perçues comme forcément réactionnaires, alors qu'en plus, parfois, ça peut juste être de la pudeur, des choses comme ça. Et en fait, on va juger que ces personnes ne sont pas assez queer et à les forcer à rentrer dans un moule spécifique.
Merci de le dire, c'est vrai.
Sans penser qu'en plus, les conséquences... quand on a fait son coming out en tant que personne racisée, ne sont pas les mêmes parce qu'on ne va pas être assimilé à la queerness blanche et donc on ne sera pas protégé par les personnes queer en cas de racisme d'État. Quoi.
Tout à fait, c'est pas parce qu'on est queer qu'on n'est pas oppresseur sur d'autres discriminations en fait. Et ça c'est quelque chose sur lequel on voulait mettre aussi l'accent. C'est pas parce qu'on subit une discrimination qu'on n'en inflige pas d'autres à d'autres personnes. Et comme tu le dis, c'est quelque chose de très important de penser notre queerness en pensant aux marges de notre marge. Et effectivement, en tant que personne blanche, je ne vais pas pouvoir ressentir et vivre la même chose qu'une personne racisée lors d'un coming out. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas prendre soin des personnes racisées, en fait. Et de conscientiser leur réalité qui n'est pas la nôtre.
Il y a des personnes dans Café Poli qui ont exprimé ces situations. Si on revient sur la question des relations plurielles, par exemple, relations plurielles, et problématiques de papier, donc de conditions matérielles d'accès sur le territoire, hein, et donc des risques de refus de papier parce que relations plurielles, et donc personnes racisées également, et donc comment toutes ces différentes couches d'oppression vont venir ramener les personnes toujours plus bas dans l'échelle des privilèges, vont ramener des difficultés supplémentaires, ouais.
Et là aussi, on va se heurter à une différence entre la ruralité et la vie citadine. Globalement, dans les villes, on va avoir des communautés qui seront plus structurées, avec des espaces, avec une visibilité possible et potentiellement moins dangereuse qu'à la campagne. Et la possibilité de se rassembler, de faire communauté là où à la campagne, en fait, on est moins nombreux, on est plus isolés géographiquement et ça va être plus difficile de retrouver un groupe qui nous correspond.
Pour bien comprendre l'origine de ces inégalités, il y a deux concepts clés à retenir. Le stress minoritaire et la syndémie. Le stress minoritaire, c'est simplement un stress qui est spécifique aux minorités sexuelles et de genre, qui est lié aux expériences de discrimination et à l'intériorisation de ces expériences de discrimination, à savoir tout ce qui est violence, rejet, tout ce qui est stigmatisation et aussi tout ce qui est homophobie intériorisée, tout ce qui est biphobie intériorisée, transphobie intériorisée, le fait d'intégrer les idées négatives que les autres ont sur soi. Et le fait d'anticiper que d'autres personnes auront à nouveau des comportements violents à son égard. Et du coup, de cacher son identité et de contrôler son comportement pour éviter de subir de la violence. Tout ça a un coût en santé mentale. Tout ça favorise la dépression, l'anxiété ou les techniques de régulation dysfonctionnelle comme l'abus de substances. La syndémie, de son côté, s'intéresse à la santé de manière globale. C'est-à-dire en prenant en compte le fait qu'un contexte social délétère favorise la concentration de maladies au sein d'une communauté discriminée, et le fait que ces différentes conditions se renforcent mutuellement.
Qu'est-ce que la stigmatisation produit à l'intérieur de soi ?
Du coup, on parle de stigmatisation, moi je me raccroche au modèle du stress minoritaire de Meyer, et ça produit évidemment des violences et des discriminations matérielles, donc des agressions évidemment. Après, il y a ce qui est dans le modèle appelé micro-agression. En fait, c'est les invalidations du quotidien, des phénomènes d'exclusion sociale. Et en fait, tous ces événements, et le fait que ces événements soient connus, pas forcément qu'on les ait vécus soi-même, mais le fait de savoir que ça existe, fait que ça augmente le niveau de stress et corollairement des symptômes dépressifs. Par exemple, parler de lynchage sur une personne gay, par exemple. Il n'y a pas besoin de l'avoir vécu soi-même pour savoir que ça existe et donc subir directement le stress qui découle de cette situation. Ensuite, c'est l'anticipation du rejet. Donc le fait de savoir qu'il y a des personnes qui se font agresser à cause de leur couleur de peau, à cause de leur homosexualité, etc. Ça fait qu'on anticipe le rejet, ça fait des phénomènes d'hypervigilance au niveau individuel. Donc on anticipe les réactions négatives et on est en permanence dans une gestion de l'image de soi. Donc ça consomme de l'énergie au niveau mental, et ça entretient une anxiété de fond constante. Et du coup, cette stigmatisation, pardon, elle est intériorisée. Donc on intègre, donc ça, par exemple, l'homophobie intériorisée, c'est assez documenté. On intègre ces messages négatifs dans la construction de soi. Donc ça va venir amener de la honte, de l'autodévalorisation et une estime de soi fragile. Et ensuite, ben, on va rentrer dans de la dissimulation, le fait de cacher son identité, de cacher ses pratiques, pour éviter les discriminations. Et du coup, ça va créer un désalignement entre le moi perçu et le moi réel. Et en fait, ça, c'est très inconfortable et ça amène à des vrais problèmes de santé mentale. C'est documenté, hein, à nouveau, par des études. Donc plus d'anxiété, plus de dépression, plus de comportements addictifs. Enfin, vraiment, c'est pas exhaustif. Une peur du rejet qui est très forte. Et donc, quand on va rentrer dans les relations plurielles, cette peur du rejet, elle va être très activée. Et donc, ça va créer de l'insécurité. Il y a également des effets sur la santé physique. Parce qu'en fait, tout ce stress, en termes d'activation chronique, ça va faire des hauts taux de cortisol qui vont être toxiques. Et donc, ça va augmenter aussi les maladies cardiovasculaires, par exemple. Et donc, un vrai impact sur la santé physique. Et évidemment, des difficultés relationnelles. C'est important de montrer que certaines catégories de personnes subissent le très 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 fort. Moi, j'ai pensé aux personnes transfemmes et personnes psychiatrisées qui sont totalement exclues, souvent exclues du marché de la séduction et des rencontres, et même des personnes qui, de par leur situation, vont être exclues même des rencontres sociales, enfin d'avoir des relations sociales.
Vous, quelle est votre situation de polyamoureuse? Enfin, vous êtes polyamoureuse?
Oui, et je suis actuellement du coup en relation, on va dire, romantique avec deux personnes. Donc j'ai une relation romantique avec Dominity, qui a elle aussi une relation romantique avec Adrien. J'ai une relation romantique avec Émile, qui est également en relation romantique avec parfois des personnes plus ou moins régulièrement. Ça m'arrive aussi de voir des gens. Et j'ai des relations aussi platoniques qui sont hyper importantes pour moi, qui font un peu rentrer dans ce schéma-là et dans un peu la façon dont j'entretiens ma vie. Du coup, avec Luc, qui est depuis 10 ans, et aussi avec Sébastien, qui a également une relation avec Marie. Donc ça fait beaucoup de prénoms, tout le monde est content.
J'ai hyper du mal à ta pardon.
Est-ce que vous avez ressenti un décalage entre ce que vous vivez et ce que la société vous renvoie? Et est-ce qu'on peut être politiquement convaincu et quand même être traversé par le doute?
Ce matin, j'ai ressenti un décalage énorme entre ce que je vis et ce que la société renvoie, notamment donc on a parlé de la vidéo là sur Teva qui prend l'influenceuse qui est passée à la télé et qui prend en ce moment une shitstorm parce qu'elle a affiché ses relations plurielles, son polyamour, des milliers de messages de haine en ligne. Et ce matin, moi, j'ai senti un stress énorme en me disant, en fait, moi, je viens parler de ça à la radio, je suis visible à plein d'endroits sur ma situation relationnelle. Et ce matin, j'ai vraiment pris un coup de stress en me disant, moi, en fait, pour l'instant, je suis affichée dans des endroits où c'est pas encore assez visible, mais le jour où ça se sait, je tremble dans ma voix quand je le dis, le jour où ça se sait, en fait, peut-être je suis dégommée, quoi. Je suis dégommée par ce que renvoie la société. Et donc, comme je vis dans une bulle de chatons, il y a un gros décalage entre ce que je vis personnellement et ce que la société pourrait me renvoyer. Voilà, c'était pour le petit point perso.
Je vis exactement la même chose, donc oui, c'est la même chose. Tant qu'on est en fait entre nous, on se soutient et on s'apporte de la douceur et du réconfort et on se comprend, on se sent pas stigmatisé. Mais dès qu'on se confronte en fait au monde extérieur et au monde qui a une vie plus normée, mais juste le fait de pas pouvoir parler de ses relations, parce qu'on est au café avec les collègues au boulot et qu'ils racontent leur week-end avec leurs conjoints, leurs enfants, et qu'en fait, nous, on n'a pas un conjoint, mais on a plusieurs partenaires. Et qu'on ne peut pas dire, avec truc et machin, on est allé faire ci ou ça. Ou, ce week-end, j'étais avec Bidule, et t'as les collègues qui disent, mais attends, mais tu sors pas plutôt avec machin chouette? Tu peux pas, en fait. Enfin, je veux dire, t'as plus cette liberté de t'exprimer librement, innocemment, alors même que t'es convaincu que ce que tu vis, c'est beau, c'est juste, c'est aligné avec ce que tu ressens et c'est dans le respect des personnes avec qui tu relationnes. Et là, l'écart entre la théorie et la pratique, il se fait ressentir très très fortement. Dès qu'on sort de notre petite bulle protégée, on s'expose à la discrimination et de la violence. Et ça peut aller de l'incompréhension à de la violence vraiment plus forte, à de l'agression, à des insultes, à des enjeux sur notre travail ou notre capacité à la garde de nos enfants potentiellement. Ça peut aller très très loin, le fait d'avoir des papiers, de trouver un emploi, un logement.
Mais ça reste quelque chose qui n'est pas visible, donc bah, moins discriminé que d'autres situations.
Tout à fait.
Parce qu'on peut se cacher au coup de la santé mentale. Dans ta question, il y avait aussi, est-ce qu'on peut être convaincu politiquement et traversé par le doute ? Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être convaincues politiquement, avoir lu sur le sujet, avoir écouté, mais en fait avoir un environnement qui ne permet pas d'explorer des formes de relations plurielles. Tu parlais tout à l'heure des personnes queer racisées. Les personnes queer racisées peuvent être tout à fait OK dans leur vision d'elles-mêmes, mais avoir un environnement, familial notamment, bah, ou autre, ou professionnel, qui permet pas, en fait, d'aller explorer des choses. Enfin, donc voilà, il y a la question de l'environnement. Après, il y a la question de l'histoire personnelle. Et en fait, là, l'histoire personnelle, elle peut venir complètement empêcher le fait d'avoir des relations plurielles, parce que ça va alimenter des insécurités. Donc je pense notamment à toutes les personnes qui ont vécu des traumas, de la violence intrafamiliale, de l'inceste. Et en fait, le mode survie dans lequel ces personnes sont, avec des fois des troubles de stress post-traumatique, des choses comme ça, là, ça va venir empêcher l'exploration et amener du doute et trop de souffrance. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on peut être aussi politiquement convaincu, mais complètement de manquer de représentation. Et en fait, clairement, sur les relations plurielles, on a très peu de représentation sociale favorable. Et donc, imaginer des possibles, ça demande d'avoir des représentations qu'on n'a pas.
Oui, et puis même sans trauma, même tout ça, on a grandi dans un modèle qui est normé sur l'exclusivité. Être convaincu que c'est ce qu'il nous faut et le mettre en œuvre et le vivre bien, c'est aussi quelque chose qui peut être difficile, même quand on a fait le travail, même quand on... Juste dans nos corps, des fois, on ne s'attend pas à vivre mal la situation, alors que dans notre tête, bah, ça nous fait sens d'avoir plusieurs partenaires et que nos partenaires en aient d'autres. Et on peut malgré tout mal le vivre et être en difficulté parce que c'est un apprentissage de la relation à l'autre qu'il faut faire et qu'on nous a appris complètement différemment depuis qu'on est tout petit.
Et est-ce que vous avez des ressources ou des pistes pour faire face à cet imaginaire ?
Les facteurs de résilience dans les études sur le stress minoritaire. Et en fait, ça se passe à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, en fait, on ne fait pas grand-chose. Donc, il y a d'abord au niveau systémique, donc avoir de la reconnaissance, des institutions, des protections et des politiques sociales qui sont en faveur des minorités et des groupes opprimés. Le fait de produire de la connaissance située et donc de venir nourrir des imaginaires et des représentations. Donc ça, c'est un premier niveau global et collectif. Au niveau interpersonnel, c'est réussir à pouvoir nommer et visibiliser les rapports de pouvoir qui se jouent dans nos relations. Dans le cas de notre polycule, composé de plein de personnes qui vivent du stress minoritaire, ça va être de réussir à nommer la cisnormativité, le validisme et les différentes orientations sexuelles. Pas pour accuser les personnes qui sont dominantes, mais vraiment pour essayer de co-construire des choses qui répondent aux besoins de chacun chacune. C'est se questionner du coup sur l'impact des oppressions, c'est ce qu'on fait tout au long de cette émission. Laisser l'espace pour exprimer des difficultés et des peurs, notamment la peur d'être rejeté, la peur de subir des violences, les difficultés à s'affirmer, donc qui peuvent être induites par la position de dominé. Et après, au niveau personnel, on peut déjà avoir des espaces thérapeutiques qui sont inclusifs pour essayer de développer l'affirmation identitaire. La communauté, évidemment, nous, on parle pour Constellation, donc intégrer des communautés d'entraide. La communauté, c'est un facteur de résilience énorme. Et lutter collectivement, voilà, et apprendre à se connaître, reconnaître ses fonctionnements.
Une nuit, je m'endors avec lui. C'est qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'aie l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Je ne veux pas qu'à seul.